qui est quand même présente, étalée sur deux départements. Donc, évidemment, navigation dans le catalogue, oui. Par contre, notre souci premier n'était pas l'orientation de l'étudiant, de l'utilisateur dans l'espace. Notre souci principal, c'était le fait que l'utilisateur n'est pas toujours à l'intérieur de la bibliothèque, que nous mettons notre catalogue sur le web, donc évidemment, ça permet d'accroître la visibilité du catalogue. Il peut être vu de l'utilisateur dans la salle de lecture, aussi de l'utilisateur qui est fait par ailleurs sur le campus, mais aussi ça peut être un utilisateur qui se connecte dans notre pays. Ce qui peut sembler un peu bizarre pour une bibliothèque universitaire des banlieues parisiennes, comme nous sommes. Nous sommes principalement dans la Val-de-Marne et en partie en Seine-et-Marne. Mais finalement, c'est à peu vrai. Nos logs de connexion à notre catalogue révèlent les connexions d'autres banlieues en France, bien sûr, notamment peut-être d'Angers, pour des raisons qui nous comprennent. Mais par exemple, un beau jour, j'ai découvert qu'on avait un campus en Finlande qui s'est connecté, suivi d'un campus à Oxford, en Angleterre. Ensuite, deux jours après, ce sont les Allemands qui sont venus faire des recherches dans le catalogue. Donc, à partir du moment où nous considérons que notre public principal, notre cible principale, ce sont les étudiants de Paris 12, c'est évident, mais à partir du moment où il y a d'autres personnes à l'extérieur à Paris 12 qui se connaissent, c'est difficile de ne pas les considérer comme notre nom d'utilisateur. Ils nous utilisent. Ils cherchent chez nous. Donc, notre problème, en fait, c'était que notre utilisateur se trouve toujours quelque part en dehors. Notamment parce que même notre utilisateur premier, qui est dans une bibliothèque, il est toujours à l'extérieur des autres bibliothèques du réseau. Bon, voilà. Bon, je vais commencer. Et le problème, évidemment, d'un utilisateur qui se trouve à l'extérieur, c'est que, le plus souvent, il n'a aucun contact avec le bibliothécaire. Et comme disait Martine Poulin, que tu as cité ce matin, les utilisateurs se débrouillent tout seuls. S'il échoue, soit il a conscience qu'il a échoué, et il ne continue plus la recherche, soit, et pire encore, il n'a pas conscience qu'il a échoué. Tout simplement, il considère que ce qui l'intéresse ne se trouve pas dans la bibliothèque. Comme disait Socrate, hein, l'important c'est de savoir ce qu'on ne fait pas. Donc, médiation. Si vous voulez vous rappeler, nous avons mis nos catalogues, nous en avons fait des opaques qui étaient accessibles dans la salle de lecture. C'était historique de stabiliser pendant la présentation des portails de la bibliothèque d'Artois. On commence toujours par mettre la bibliothèque sous Windows dans la salle de lecture. La bibliothèque est encore là. Si les utilisateurs ne trouvent pas, on peut toujours poser la question. Après, on met le catalogue sur le web. Et là, du coup, c'est lâché dans la nature. L'utilisateur peut se mettre partout. On n'a aucune influence, à peu près, sur ce qu'il va faire ou ce qu'il ne va pas faire parce qu'il ne saura pas qu'il pourrait le faire. Voilà. Donc, évidemment, comme a dit Mme Pochet ce matin, nous avons vu que nous avions l'intuition tout d'abord que nos utilisateurs subissent de nombreux achats dans la recherche dans Web ou Webopa. Très récemment, nous nous sommes procurés, nous avons maintenant un logiciel d'analyse des requêtes Oracle qui sont effectuées sur notre serveur. Cette intuition est malheureusement confirmée. De très nombreuses recherches documentaires échouent. Et malgré la présence dans les fonds de bibliothèque de documents tout à fait pertinents par rapport à la recherche faite par une femme utilisateur. La conséquence de la chose, de ce croisement entre l'échec de la recherche, l'utilisateur distant, peut-être alors sur la web, c'est que si l'utilisateur extérieur ne trouve pas l'ouvrage, le document, l'information qui l'intéresse, il ne risque pas de venir à la bibliothèque pour emprunter les autres ouvrages, ou tout simplement les consulter. Quand même, vous savez tous que la bibliothèque universitaire quand même sont priés par un ministère de rendre compte de leur profane et de leur temps de consultation. Donc, pour nous, c'est la porte sèche. Nos fonds documentaires ne sont pas suffisamment exploités, ne sont pas exploités à l'auteur de l'effort que nous avons mis à construire une offre documentaire. Eh bien, évidemment, nous, les professionnels, nous nous sommes rendus compte de ce problème depuis un moment. Donc, d'où l'offre de formation à la recherche documentaire qui s'est diversifiée, qui s'est développée. Chez nous, à Paris 12, c'est un élément important. De toute manière, formation à la recherche documentaire va faire partie de notre obligatoire dans notre circuit LMD que nous avons mis en place. Le problème qui se pose, c'est tout d'abord, formation à la recherche documentaire, ça coûte vraiment cher. Chez nous, c'est dans une salle bibliothèque du réseau, c'est un poste à temps complet, sans compter les salles de formation, sans compter les machines, plus dans les autres bibliothèques où cet effort de formation est répété. Et cet effort est répété tous les ans. Tous les ans, nous avons de nouveaux utilisateurs à former. Et dernière chose, cette formation ne touche pas les étudiants qui n'ont pas suivi la formation, dont vous en avez parlé ce matin, au cours du week-end prochain, on a parlé des utilisateurs qui ont été testés, qui ont répondu à des questions. Une partie n'a pas suivi la formation à la recherche documentaire, bien que cette formation ait été proposée. Et donc, ce sont les étudiants qui passent à travers le maille du filet. Et aussi, la formation documentaire, on n'a aucune chance de toucher les utilisateurs qui ne sont pas inscrits. Donc, vraiment, c'est chez nous, par exemple, ce sont les lecteurs externes inscrits qui payent, qui payent pourtant pour pouvoir utiliser la bibliothèque. C'est aussi bon dans notre cas précis, c'est la population environnante qui souhaite parfois, on imagine, on n'a pas encore fait la participation, mais on sait que souvent cette population cherche à savoir s'il y a quelque chose dans la bibliothèque universitaire qui ne peut pas poser. Ni, d'ailleurs, ne sont pas formés les utilisateurs qui, pour des raisons diverses, se connectent vraiment de l'extérieur, des autres bibliothèques françaises ou de l'étranger. Donc, c'est quand même du web. Notre catalogue est sur le web. D'où nous avons ressenti le besoin de proposer autre chose que la formation. On se dit que c'est pas assez. Pour conclure sur cette fois, nous formons, et nos utilisateurs continuent à échouer dans la recherche. Donc du coup, si vous pouvez voir un petit diable, si on peut supprimer la recherche documentaire. Il ne s'agit pas bien sûr de la supprimer au sens strict du terme. Elle est toujours disponible avec toutes les options booléennes qu'on souhaite. Hein. Si on avait le temps, je pourrais vous en faire. Mais en fait, on s'est dit qu'on pourrait imaginer une autre exploitation de ressources documentaires que nous avons qui ne passe pas nécessairement par la formulation d'une recherche par l'utilisateur. Parce que le problème est là. Il la formule. Dans mon pays d'origine, il y a un proverbe, l'homme tire et c'est le bon Dieu qui porte le bal. Ça veut dire que l'utilisateur essaye de faire une requête, mais ensuite ça aboutit ou ça aboutit pas. C'est vraiment, du point de vue de l'utilisateur, notamment l'utilisateur novice, c'est question chance ma chance, comment on formule. On ne peut pas deviner qui va lui apporter la requête. Donc, nous sommes dit que finalement, il faudrait que l'utilisateur puisse naviguer dans le catalogue sans formuler la question, commencer quelque part dans le catalogue, et selon l'option qui se présente, qu'il puisse choisir l'option qui l'intéresse et continuer à faire ça jusqu'à ce qu'il tombe sur quelque chose qui lui convient. Et à partir de ce moment-là, il peut demander le document associé au sujet. Donc évidemment, question ensuite, on a eu de grosses questions existentielles, quoi choisir comme outil. Donc on avait alors dans notre catalogue, étant donné divers catalogues de bibliothèques associées qui sont présentées dans notre catalogue, donc on avait la classification CDU que nous utilisons dans notre SCD pour classement des ouvrages anglo-saxons, dont qui couvraient quand même une grande majorité des fonds. Nous sommes surtout en, nos collections sont surtout en libre accès, en petit pourcentage en magasin. Donc, évidemment, ceux qui étaient en magasin n'avaient pas de la même CDU, mais c'était un pourcentage relativement, pas peu important, mais en tout cas, la CDU nous couvrait beaucoup de motifs bibliographiques. Ensuite, Ramon, dont Ramon, alors, c'était. On n'a pas fait d'évaluation précise, on en voyait beaucoup dans la notice, et nous nous sommes dit que, étant donné maintenant, travaillant dans Sudoc, tous les membres utilisent Ramon, normalement, le pourcentage de notices comportant des mots-clés Ramon était appelé à augmenter. Donc, à terme, nous nous sommes dit que toutes les notices allaient avoir des mots-clés Ramon. Il ne faut pas dire contre le Ramon. Et ensuite, on avait d'autres choses qui étaient épisodiques. Nous avons une bibliothèque médicale qui dit bien sûr MESH, et classification de la. Donc, tout SCD utilise la classification CDU, mais la bibliothèque médicale utilise la classification de la bibliothèque de National Library of Medicine américaine. Et quand cette classification ne suffit pas, elle utilise la classification de la bibliothèque du Congrès, bien sûr. Nous avons aussi SCUO qui utilise le vocabulaire d'indexation UNICEF, à son propre classification, etc., etc. Donc, finalement, pour choisir la chose, nous avons choisi la seule option possible. Nous ne sommes pas vraiment préoccupés de comment se présente l'outil documentaire, mais surtout combien de notices bibliographiques sont concernées. Et à partir de ce moment-là, en conclusion, nous avons choisi vraiment CDU. CDU parce que nous savons pertinemment que une grande majorité de fonds aura toujours un indice CDU à moins de chances de classification. Et vraiment, qui présente quand même dans pas mal de notices et qui normalement va être présente dans un nombre de plus en plus élevé de notices. Et à partir de là, nous sommes dit, nous misons sur ces deux langages de l'humanité. Alors, donc en fait, pour en faire des outils, des vrais outils de navigation, il fallait préparer le terrain, notamment le travail de saisie, notamment pour la classification CDU, qui existe uniquement dans la version papier. Donc vous allez voir, à peu près sur 2000 indices à saisir, nous avons saisi trois quarts, quelque chose comme ça. Ça prend beaucoup de temps, en fait, hein, notamment pour faire le lien ensuite avec un indice. Par contre, le Ramon nous arrive tout près, parce que nous participons au réseau des catalogues universitaires comme Sudoc. Donc, en fait, nous récupérons les notices d'autorité qui sont liées aux notices bibliographiques sur lesquelles nous nous localisons. En fait, Ramon nous arrive tout seul dans notre catalogue et surtout de la mettre en place. Quant aux possibilités de navigation pour chacun de ces langages, pour la CDU, évidemment, c'était quelque chose qui était vraiment très propre. Hein. C'est servi à mettre sur les étagères, dont c'était vraiment très linéaire, même un peu trop, parce qu'à ce moment-là, nous sommes rendus compte que CDU, comme toute classification, est mono-hiérarchique. Donc je m'explique, ça veut dire que chaque sujet dans la CDU ne peut avoir qu'un seul terme supérieur, il ne peut pas avoir deux. Tout simplement parce qu'il faut passer dans une salle. On ne peut pas classer en même titre, dans deux salles, un seul exemplaire de mon livre dans deux salles différentes. Il faut choisir. Donc, disons, on s'est dit que la navigation dans ce début va être quand même un peu limitée par cette chose-là, mais c'est un langage, un mot, que nous maîtrisons, nous avons la main, nous avons la possibilité de faire évoluer, on le prend quand même. Comment c'est vraiment ? Donc, nous avons vu que dans l'analyse bibliographique, il y avait souvent beaucoup de mots clairs qui nous intéressaient, donc beaucoup de points d'accès à partir de la navigation par sujet. Aussi, nous avons remarqué que contrairement à la CDU, vraiment la polyhierarchie, non, sans faire quoi que ce soit, les possibilités de navigation sont importantes, beaucoup plus intuitives en fait. Hein. Donc, voilà. Alors. Et ce qui fait pas ça, c'est qu'évidemment, à part la saisie de la CDU, nous n'avons pas eu la structure à la chose. C'est chaque classification, comme vous savez, a un début. C'est-à-dire, dans la classification imprimée, c'est la première page où on donne la liste des grandes classes. Ce qui pour nous, nous nous sommes dit, c'est notre début. Par contre, pour Ramon, la situation était beaucoup plus compliquée. Parce que sur 80 000 terme relié en soi qui existe dans Ramon, eh bien, il n'y avait pas de début du tout. Donc, on était assez embêtés, parce que quand même, on veut que l'utilisateur navigue, mais par où il commence. Donc, bon, nous avons retrouvé nos manches, nous avons pris un cadre de classement que nous avons trouvé sur le site de Ramon, et nous avons identifié une série de vélos Ramon que nous avons appelé des têtes de gondole, d'une façon très poétique. Et nous avons décidé que c'est par là que la navigation va commencer. Évidemment, il s'est avéré que ces têtes de gondole, nous les avons prises surtout parce qu'elles correspondaient à des grandes disciplines scientifiques que nous avions dans notre temps, et parce qu'il y avait beaucoup de liens. On s'est dit l'important, c'est qu'ils puissent naviguer. Et ensuite seulement, nous sommes allés voir le Centre National Ramon en disant que voilà, nous avons une série de têtes de vedettes savantes qui s'appellent têtes de gondole. Et puis, elles ont beaucoup de liens, mais ce n'est pas très ordonnée. Est-ce que vous, au Centre Ramon, vous ne seriez pas nous, on peut nettoyer tout ça. Centre National Ramon, finalement, était assez intéressé. Et puis, ma foi, Michel, je crois que vous avez entrepris les étapes pour essayer un petit peu de mettre à plat un peu cette tête de gondole et tout ce qui est associé avec, etc. Donc pour l'instant, vous allez voir, on fonctionne encore avec nos têtes de gondole maison, nos têtes maison, mais on a un bon espoir qu'un jour on pourra la mettre à la poubelle et s'appuyer sur les choses toutes prêtes qui nous arrivent de la BNF via Super. Donc on n'a plus rien à faire, ça va marcher tout seul. Alors, bon, c'est le moment de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble en ce moment. Ça marche. Oui. Dites-vous encore ça marche. Vous voyez tout simplement notre page d'arrivée, notre catalogue tout à fait ordinaire, tout ce qu'il y a de plus banal qui fonctionne sous logiciel Aleph. Nous avons caché un petit peu toute cette navigation pour des raisons que j'explique à la fin. Et nous avons ici la navigation Ramon, que nous avons appelée justement navigation sémantique. En fait, on a beaucoup cherché le nom. On s'est dit c'est sémantique, donc on va l'appeler navigation sémantique. Je suppose que c'est un peu comme chez vous, vous allez longtemps chercher le nom pour votre application. Donc en fait, il y a plusieurs stades. Là, ici, nous sommes déjà à l'intérieur de notre catalogue, mais nous avons une page web d'accueil avec nous, puisque nous, cette application englobe STD tout entier, nous voulons tout simplement nous-mêmes, séparer tout cela, organiser en fait ce cadre documentaire. Généralité, peut-être en sciences de l'info, etc. Sciences humaines et sociales, sciences techniques, arts et littérature. Là, on se dit que ça épuise à peu près tout ce qu'on a. Ensuite, ça c'est une page web faite maintenant. Là, ici, à l'intérieur, pardon, je voulais vous montrer, en fait, je voulais vous montrer sciences et techniques plutôt. Non, ensuite, en utilisant le fameux cadre de classement Ramon trouvé sur le site de Ramon, nous avons listé les disciplines qui nous intéressaient. C'est encore une page web dans le catalogue, une page toute simple, page statique, avec des liens. Là, ici. Dans le futur, notamment parce qu'après coup, la CDU est venue après Ramon. À partir du moment où on a décidé d'enlever les chiffres qui correspondent à l'arrivée. Donc les chiffres vont disparaître. Sinon, je ne vais pas supprimer tout de suite parce que du coup, la liste, je ne sais pas si je vais la faire d'une façon alphabétique ou alors en déroulement logique, on n'a pas eu le temps de nous en occuper. Donc pour l'instant, on garde encore les mini indices du way. Mais bon, ça va être une liste vraiment purement verbale. Et là, ici, on tombe, là nous nous trouvons dans notre catalogue dans une notice, non du livre possible, mais dans une notice de charité, dire notre, parce que Aleph a une base spéciale pour la déterminité, il fait le gérer. Et nous pouvons nous balader, là ici, l'utilisateur peut se balader entre les termes d'indexation des vocabulaires vraiment. Donc, par exemple, il peut aller dans électronique. Il y va ou pas? Il y va. Il peut afficher la notice tout entière. Là aussi, il y a eu un gros travail sur l'intitulé des étiquettes NIMAS, des formats de pilotes autorité. Et là, du coup, je pense encore ce matin, c'est vous, Madame Leger, qui a parlé de comment utiliser quand on fait une page web. Non, en fait, dans la notice d'autorité que nous avons récupérée de la BMF via Sudoc, les sujets plus précis s'appelaient sujets spécifiques. C'est un anglicisme, en fait. Nous sommes dit, quand même, on peut mettre nos autorités à la disposition de l'utilisateur lambda, non formel, qui n'arrive pas à trouver. Déjà, si on lui dit que c'est quelque chose qui est spécifique, déjà, il va cogiter pendant 5 minutes pour comprendre ce que c'est. C'est-à-dire, on a beaucoup réfléchi, c'est peut-être évident pour eux, c'est-à-dire finalement, pour l'instant, on utilise le vocable sujet pour plus précis. Quelque chose de plus maître, le plus coulant des sources, en fait. De même. Ah, ici, il n'y a pas. Voilà. Ici, par exemple, pour sujet dit générique, encore un anglicisme, nous avons adopté le vocabulaire sujet plus large. On pourrait dire, déjà, nous nous sommes dit, nous mettons le lecteur à naviguer dans les autorités. Déjà, peut-être, quand même, il faut bien le mettre en garde avec les notes, que ce n'est pas une notice bibliographique, mais une notice, en fait, une notice des sujets. Autant faire les choses le plus simplement possible. Pour l'instant, nous n'avons pas trouvé encore un utilisateur satisfaisant pour le terme actif. Pour l'instant, nous sommes dit qu'on renvoie deux, mais nous cherchons toujours. Hein, nous ne trouvons pas de satisfaisant. Donc, il faut naviguer dans les autorités qui sont toujours liées à des notices bibliographiques, parce que je vous rappelle le principe, on rapatrie de Sudoc les notices bibliographiques et les notices d'autorité qui sont associées avec. Donc on ne risque pas d'avoir une notice d'autorité à vide. Ce qui serait le cas si on prenait tous les fichiers de la BNF et on mettait dans notre catalogue. À partir du moment où l'utilisateur peut naviguer entre les notions, à partir du moment où, là par exemple, je suis dans l'électronique, je vois opto-électronique, je me dis, moi l'utilisateur, je me dis, ah, ça m'intéresse. Là, ici, coup de chance, le Centre national aura une note qui explique ce que c'est opto-électronique. Donc, moi, utilisateur, je la lis avec beaucoup d'attention. Et je me dis, c'est quelque chose qui me convient. C'est justement le sujet que je cherchais. Et là, du coup, ici, nous avons une série d'instructions très simples cliquées sur un utilisateur de sujet pour obtenir des documents, enfin, la notice des documents. Cliquez sur un petit lien du renvoi pour balayer la liste des sujets. Cliquez sur le lien pour naviguer. Donc là, ici, je vais cliquer sur opto-électronique, sur le terme. J'ai une fenêtre de service qui s'ouvre. Je peux cliquer sur chercher tous les sujets avec opto-électronique. Et là, du coup, je reçois la liste. Je suis basculée dans la base bibliographique. J'obtiens tous les ouvrages, toutes les notices bibliographiques qui, dans la zone d'adresse matière, comporte le mot opto-électronique. Donc, en fait, à partir du moment, avec ce système, à partir du moment où il y a des mots clairement dans la notice bibliographique, normalement le lecteur obtient toujours une réponse. Réponse en grande majorité, enfin, en théorie toujours pertinente, et normalement toujours exhaustive. Donc, la règle, le problème évidemment, c'est que notre utilisateur n'a le même principe avec, donc le, très rapidement, le même principe avec la classification. Donc comme vous voyez, ce n'est pas encore complètement fini. Nous avons fait la classe de 0 à 6. La note est faite aussi, mais je ne sais pas si elle est encore. Enfin, non, pour l'instant, c'est 0 à 6. Ça fonctionne sur le même principe. Par exemple, si on veut partir un groupe de fonctionnaires. Seulement ici, en théorie, le système de navigation permet de ramasser à la fin une partie moindre de la documentation, parce que c'est uniquement le choix de ce qu'on libre accès. Évidemment, on réfléchit à la façon comment faire pour mettre des indices CDI au document magasin, mais on a beau réfléchir, il faut bien que ça s'intitule, on n'a pas que ça. Donc on va voir comment ça évolue le nombre de documentation avec le nombre de documents avec la liste des listes. Alors. Donc actuellement, voilà, donc c'est un système tout simplement, donc, qui s'appuie surtout sur les éléments bibliographiques, les éléments qui figurent d'ores et déjà dans un outil bibliographique. Nous n'avons absolument pas les moyens pour ajouter quelque chose à la main pour permettre cette navigation. D'où la stratégie que vous avez bien compris. D'un côté, on prend les éléments qui sont les plus présents, et on fait en sorte ensuite pour que ces éléments soient les plus navigables possible. Et si nous n'avons pas la main sur la chose, on frappe chez les gens qui peuvent faire en sorte que les outils soient navigables. Nous avons quelques problèmes techniques actuellement, donc celui de CDU, donc j'espère que je finirai de l'accéder pour la rentrée prochaine. Et à partir de ce moment-là, on met vraiment le système en ligne, c'est-à-dire sur la page d'accueil de notre catalogue, en face de la recherche normale. Parce que notre idée, c'est de proposer d'un côté la recherche tout à fait normale, classique dans le parc, juste à côté, la navigation par sujet dans le catalogue, pour que les utilisateurs puissent choisir soit l'un, soit l'autre. Nous avons actuellement un petit problème technique, c'est-à-dire quand nous lançons une recherche à partir de la base d'autorité, la base bibliographique, il y a une déconnexion qui ne ferait pas la recherche. Donc on pense qu'on va peut-être changer le connecteur entre deux bases, c'est seulement une question de quelques jours de la pour paramétrer les choses. Et voilà. Nous prévoyons, nous avons quelques idées quoi faire ensuite avec les choses, notamment programmant, dont les notices comportent les équivalents en anglais de langage LCSH. Comme vous savez, d'immenses réservoirs, aussi bien dans le catalogue étranger que dans les bases de données en ligne, utilisent le vocabulaire LCSH. Donc, on pense faire en sorte que les gens puissent ensuite, une fois trouver leur sujet dans la base d'autorité, relancer la recherche, rebondir vers la recherche vers les bases anglo-saxonnes en utilisant ces termes anglais LCSH. Évidemment, on est en train de mettre en place le portail documentaire. On espère de dire quoi. On réfléchit, on n'a pas encore avancé, mais on se penche sérieusement sur le comment du pourquoi, articulation entre les deux. Aussi, nous avons l'intention d'utiliser à la rentrée de création d'un même système de navigation géographique et dans le non-géographique dans notre portail que nous allons créer pour le fonds d'intérêt local. Donc, très brièvement, nous avons un fonds de mémoire des thèses, fait notamment par l'Institut d'urbanisme de Paris, qui est partie composante de Paris 12, mais aussi par les autres composants de l'université. Nous avons beaucoup de travaux universitaires dans toutes les disciplines dont le sujet qui concerne Val-de-Marne elle-même, le département. Et nous souhaiterions mettre en valeur ces fonds d'intérêt local, mais de niveau universitaire. Nous venons d'obtenir une subvention CNL pour développer ces fonds-là. Et dès que nous avons un nombre critique de chiffres et de mots-clés qui vont avec, nous allons mettre en place navigation géographique Val-de-Marne sur toutes les localités de Val-de-Marne, éventuellement sur les curiosités, monuments, institutions qui se trouvent dans les diverses localités de Val-de-Marne, ainsi de suite, en s'appuyant sur la même principe. Donc voilà, pour conclure, évidemment, Ce système de navigation s'appuie sur une particularité de l'angle documentaire, c'est-à-dire le lien entre les termes. Il ne remplace pas, il ne remplacera jamais la recherche documentaire directe. Mais comme les bibliothèques municipales qui sont récemment lancées dans la tentative de construction des catalogues à la Yahoo, en fait, c'est vraiment, nous considérons que ce système-là nous permet de mettre en valeur les collections que nous construisons. Je ne sais pas si moi, plusieurs fois, j'étais quand même surprise que nous parlons beaucoup entre nous professionnels de la politique documentaire, de construction de l'offre, de déconstruction de l'offre, mais pour un utilisateur, pour l'utilisateur, la politique documentaire n'est absolument pas visible. À partir du moment où il procède par requête, il peut se rendre compte que parfois sur un sujet, il trouve plus souvent que dans une autre discipline. Mais l'offre documentaire, la politique, une collection construite n'est absolument pas visible en tant que telle. Sinon, dans le compte rendu du conseil de documentation de l'université, mais qui va le lire? Voilà. Donc, en fait, c'est une manière de rendre visible l'identité propre de chaque bibliothèque. Parce que là, je vous rappelle la page que je fais, presque secteur documentaire, généralité à la science, presque secteur. Nous avons trois bibliothèques spécialisées dans le réseau. J'envisage tout à fait que chaque de ces bibliothèques fait face une page d'accueil de premier étape de navigation qui correspond à son profil documentaire. La bibliothèque médicale pourrait faire quelque chose qui commence par science préclinique, science clinique, chirurgie, autre sujet. Donc, toujours en aboutissant ensuite à la liste des disciplines. En tout cas, ça permet, dont le système mis en place permet de mettre en valeur et moduler aussi en fonction des profils de chaque bibliothèque. Et puis bon, évidemment, comme j'ai compris quand j'ai commencé, ça permet tout simplement d'avoir une réponse intéressante aux utilisateurs qui sinon échouent. Voilà, merci.
Moi j'en aurais une petite. Tu as parlé de la visibilité, de la politique documentaire. Justement, en 2016, on est dans un environnement qui est très organisé. En fait, l'effort que tu apportes particulièrement sur l'organisation des mots, des supports, etc. Est-ce que ça ne se prêterait pas, justement, dans ce contexte précis, à une mise en image par un système cartographique
Oui, en fait, tout à fait. Seulement, nous restons pour l'instant dans cette histoire de navigation. Nous essayons de rester le plus terre à terre. Parce qu'évidemment, en fait, quand je suis arrivée à Paris 12, l'ambiance était naviguant, essayant de cartographier. Paris 12 a écrit à Cartoon. Cartoon n'a pas répondu. À l'époque, en fait, quand je suis arrivée à Paris 12, il n'y avait pas des autorités. Donc, on a essayé de faire naviguer avec ce qu'on avait dans la petite bibliographie. On peut la faire de savoir. Bon, Cartoon n'a pas répondu, maintenant on n'a pas insisté, etc. Après, on a justement changé de version de logiciel. Enfin, il savait gérer les autorités. À ce moment-là, on s'est mis dans une double d'autorité. Quand on arrivait, on s'est dit, on va exploiter les autorités. Pourquoi pas? Si tu veux, tout à fait, en fait, moi, je suis ouverte à toutes les suggestions. Pour l'instant, tout simplement, là, ce qu'on a fait, on fait avec les outils du travail courant. C'est-à-dire qu'on n'a aucun développement informatique, sauf quelques pages web, pour mettre en place. On n'a pas de données importées. On n'a pas des applications moteurs, on n'oblige pas les utilisateurs à télécharger quelque chose, des plugins, etc. C'est un truc tout bête, avec ce qu'on a, on retourne un peu comme nous. Les catalogues, comme une crêpe, on essaye de faire accéder le lecteur par les outils qui, jusqu'au présent, étaient accessibles uniquement aux bibliothèques. Mais graphique, tout à fait. En fait, nous, on est tout à fait partant pour faire quelque chose avec des bases.
Oui, je voulais vous demander quels sont les moyens qui ont été investis dans la mise en œuvre de ce système.
Alors, nous sommes deux passionnés en fait dans l'histoire. Donc, ce qui se passe, nous sommes deux conservateurs à travailler sur le projet, et vous devinez bien qu'il y avait un conservateur qui était plutôt pour la CDU, et l'autre qui était plutôt pour le programme. Mais ayant toujours la même vue, en fait, nous avons abouti à une solution et à un partage. Ce qui s'est passé, c'est que, à côté des fonctions habituelles, mais la chose était facilitée par le fait que nous sommes tous les deux administrateurs de notre FGV. Donc, en fait, à l'occasion du travail courant, on cherchait à voir ce qu'on peut faire avec. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il faut souligner que l'équipe qui est responsable de ce support de SIGB Aleph, c'est-à-dire Ex-Libris France, a été remarquablement ouvert sur les problèmes des autorités, qu'ils ne connaissaient pas vraiment, parce qu'avant qu'on commence à les utiliser dans France, il n'y avait pas d'autres bibliothèques Aleph qui étaient vraiment penchées sur la question. Mais aussi, ce qui s'est passé, c'est que Ex-Libris, quand on ne savait pas trop comment résoudre les problèmes, a demandé de l'aide et a obtenu de l'aide de Ex-Libris Israël, qui est la société centrale en fait. Et même Ex-Libris Israël, c'était comme ça un développement qui permet maintenant de gérer les liens entre deux bases de bibliographique autorité en utilisant le numéro PPN de Sudoc. Et en plus, ils ne vont même pas fait payer. Donc en fait, tout le monde s'est pris un peu au jeu. On s'amusait aussi à faire une navigation dans le catalogue. L'équipe de SIGB y a été sensible. On a eu du temps, voilà. Parce que évidemment, ça prend du temps.
Merci.